Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Bernard Poirette sur RTL.
9h38.
Maison, jardin, cuisine, brocante. Ce matin, Sébastien, Églantine, Laetitia et Thierry, mes amis, bonjour.
Eh bien, bonjour Bernard.
Sébastien de Morange, j'ai le sentiment que ça fait un petit moment déjà que vous mangez du pamplemousse le matin, le midi, le soir, couché, debout, ouais, la tête en bas. Ouais. Vous en utilisez sans arrêt dans vos assiettes en plus. Oui, c'est vrai.
Bah, bien
vous
sûr.
Vous transformez en gros pamplemousse. Il est temps de consacrer au pamplemousse un week-end spécial.
Oui, absolument.
Et c'est celui-là.
Et c'est celui-là. Et vous allez voir, Bernard, on va pas se contenter de dévorer les pamplemousses tout crus. On peut faire plein de choses très très chouettes avec un banal pamplemousse. Nous allons confire des zestes de pamplemousse. Alors, non pas dans une saumure comme je vous l'ai déjà raconté. Ouais, on va pas faire.
C'est pas compliqué.
Vous savez, les citrons, les bergamotes au sel, hein, la saumure classique. Là, on va faire un sirop d'une part, et puis d'autre part, on va utiliser le jus de pamplemousse pour faire une superbe recette avec du canard. J'avais envie de canard, et je sais que Thierry adore ça. Moi aussi, on va faire du magret, évidemment.
Et des pamplemousses traitées.
Des pamplemousses pas traitées.
Bon, pas traitées. Je suis rassuré.
C'est vrai, c'est compliqué. C'est pas évident à trouver des pamplemousses pas traitées. Alors, si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, vous brossez soigneusement l'écorce à l'eau tiède. N'hésitez pas à y aller de façon à enlever le maximum de cochonneries, hein, qui sont encore évidemment trop souvent utilisés pour traiter nos agrumes. Ça, c'est vraiment dégueulasse.
Une
quoi.
Fois que l'écorce est propre, qu'est-ce
alors,
qu'on fait?
Alors, pamplemousse jaune ou rose, au choix.
Oui. Au choix.
Vous lui enlevez délicatement sa peau, puis vous allez tailler cette peau en lanière, en bâtonnet, d'accord ?
On lui fait la peau.
On lui fait la peau, 6-7 mm de large, grosso modo, et vous allez les placer dans une casserole d'eau froide, vous faites bouillir, vous égouttez, vous recommencez cette opération deux fois. On fait bouillir, on égoutte.
C'était pour enlever l'amertume.
Processus exactement de désamérisation, Thierry. Voilà.
D'accord.
Et ensuite, les zestes dans une casserole avec un fond de sirop de canne, vous les mettez dedans, montez à ébullition, vous laissez cuire une petite dizaine de minutes pour les attendrir maintenant, les confire et vous laissez refroidir dans le sirop. Tout ça tient au frais, 3-4 heures. Si vous voulez le faire la veille, il n'y a aucun problème.
Voilà. D'accord.
Le pamplemousse, c'est réglé.
Voilà.
Et maintenant, les petits magrets, qu'est-ce que je fais?
2 pour 4, mon cher Thierry. On va les faire donc mariner dans le jus de notre pamplemousse qui va être mélangé à 2 cuillères à soupe de miel neutre, hein, tout simplement. 4 cuillères à soupe de sauce
soja.
De soja.
Ah oui,
bien sûr, toujours.
Ouais,
un
ouais.
Bon coup, une belle rasade de poivre noir. Faut y aller. Un tout petit peu de sel.
Et on laisse mariner combien de temps?
Alors, on va dire 2 heures au frais, grosso modo, puis vous les sortez les magrets 1 heure à l'avance pour qu'ils remontent à température ambiante. Et ensuite, vous les faites rôtir comme il faut, c'est-à-dire 8-10 minutes côté peau, 3 à 5 minutes côté chair, en fonction
arroser,
de leur. Absolument nappé de gras, arrosé,
oh,
bien sûr.
Le gras.
Après ce gras, une fois que le magret est cuit, vous
bon
le retirez
le
de la poêle. Et là, vous allez ajouter votre reste de marinade et les zestes confits. Vous faites un tout petit peu réduire, vous coupez vos magrets, mettez-les là-dedans avec un petit coup de sauce au pamplemousse, vous les enrobez. Et c'est juste grandiose. Vous êtes, vous savez, entre l'acidité et l'amertume. Et puis les magrets, si vous voulez une petite garniture, mousseline de pommes de terre douce.
J'adorerais manger ça. Après, jamais je vais le faire.
Mais bien
sûr que
ça. Mais arrêtez d'être cossarde à ce point-là.
Oui.
C'est pas possible.
Franchement,
quoi.
Églantine
Éveillée, ce matin, vous nous emmenez chez nos amis d'Alsace.
Oui.
Ah.
Je vous invite, si vous êtes dans la région, à aller vous balader à Weyersheim. Pas de brocante à la choucroute ou à la flammkuche. Quoique, si vous êtes de passage, je vous les recommande chaudement. Quand même.
Ah, c'est délicieux les flammes cuites.
Non,
oui.
On va parler de ces nombreux placomusophiles qui se retrouvent aujourd'hui à Weyersheim. Bref, on s'intéresse
et
ce
on
matin
ce que
aux
c'est.
Capsules de champagne et de crémant.
Voilà, les placomusophiles, elle nous a bien élevés, on le sait maintenant tous.
Oui.
C'est les collectionneurs des plaques qui protègent les bouchons en liège.
Exactement.
Voilà.
Ces capsules qu'on appelle plaques de muselet déchaînent
ouais.
les passions de plusieurs dizaines de milliers de collectionneurs partout en Europe. À tel point que depuis quelques années, les producteurs en conçoivent spécialement pour eux, sans même les utiliser sur les bouchons.
Ah oui,
c'est
exact,
les petites
exact.
Plaques, c'est très fin et ça épouse le bouchon, c'est
oui,
ça.
Oui,
le muselet, voilà.
Les bouchons de champagne sont très particuliers puisqu'ils sont arrondis avec des creux.
Oui, c'est ça. Le muselet. Il maintient le bouchon bien à sa place.
Mais j'avoue que moi, j'ai jamais vraiment
mais c'est pour
porté attention.
Mais si, mais c'est hyper important, Laetitia.
Pour boire plus souvent.
Ça permet l'étanchéité de la bouteille.
Exactement.
Alors, il y a la partie en fil d'acier qu'on tourne pour libérer le bouchon. Et puis, la fameuse plaque en verre blanc, vernie, lithographiée ou estampée. Et cette invention de 1844 est cruciale pour la bonne conservation du champagne. Alors, au début de leur utilisation, ces capsules possédaient tout un aspect identique. Elles recouvraient les bouchons sans distinction de marque ou de provenance. Et puis, au début du XXe siècle, les grandes maisons y inscrivent leur nom. Ce n'est qu'à partir des années 1960, avec de nouveaux procédés de fabrication, que les plaques de muselet sont utilisées comme de vrais objets publicitaires.
Alors, Églantine, si on veut avoir une collection vraiment intéressante, on l'axe comment?
Alors, il y a certains passionnés qui privilégient les plaques les plus récentes.
Ouais.
D'autres vont se focaliser sur un thème, comme les animaux, les personnages, les écussons. Vous pouvez aussi chiner les capsules d'un ou plusieurs producteurs
oui,
bien déterminés
d'une maison
déterminée, donnée, exactement.
Oui,
oui. Et ce sont dans des rassemblements, comme celui de Weyersham, que vous avez le plus de chances de trouver les pièces que vous convoitez.
Et une idée des prix ?
C'est que dalle. C'est hyper accessible, c'est de 1 à 3 euros en moyenne, et on trouve pas mal de capsules à 50 centimes. Hein. Sachez évidemment que les capsules les plus chères, eh bien, ce n'est pas nécessairement les plus rares.
Ah, une fois. J'imagine qu'il y a un ouvrage de référence.
C'est le répertoire Lambert 2018 des plaques de muselet de champagne qui répertorie et cote de très très nombreuses plaques. Cette journée d'échange de plaques de muselet de champagne, c'est à Weyersham aujourd'hui et c'est ce matin de 8h à midi et cet après-midi de 14h à 18h.
Voilà, pour tous les amateurs, ils y vont. La suite de Maison Jardin Cuisine brocante dans un court instant, la foire de Paris avec Laetitia Nallet qui est déjà là avec ses gros godillots, elle va aller hanter les allées de la foire de Paris. Et Thierry qui nous a apporté une plante. Apparemment, ça s'appelle les l'ail des ours. J'ai entendu parler de ça.
Ah, c'est extraordinaire.
J'ai entendu parler.
Oui, ça me dit quelque chose.
Ça se mange.
Maison, jardin, cuisine brocante sur RTL.
Il est 9h45.
La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante. Ah, Laetitia Nallet, ça, je sais que c'est une époque qui vous ravit, puisque du 27 avril au 8 mai, c'est-à-dire depuis hier et jusqu'au 8 mai, c'est la Foire de Paris, avec cette année un rendez-vous très spécial pour les apprentis bricoleurs dont vous êtes la grande prêtresse.
Ouais. C'est pour ça qu'elle n'a pas le temps de cuisiner.
Exactement. Cette année, le roi Merlin va relever le défi de monter une maison grandeur nature de 100 mètres carrés. Non, mais en 12 jours.
Ouais, quand même.
Et pas avec des professionnels, mais avec les visiteurs.
Ah, c'est marrant ça.
Alors au départ, il y aura juste une ossature bois. Et grâce aux ateliers organisés, eh bien, les visiteurs, vous, nous, monteront des murs en béton cellulaire, des gaines électriques. Nous apprendrons comment installer une VMC un va-et-vient électrique. Ce sont des cours de bricolage pratiques. Nous allons tous mettre la main à la pâte et ça sera donc un chantier en temps réel. Vous pourrez apprendre à poser du parquet, qu'on doit toujours laisser 48 heures dans la pièce avant la pose. Et si vous vous demandez dans quel sens, eh bien, faites en sorte que les lames se dirigent vers la fenêtre.
Attendez, on doit agrandir l'espace. Pour qu'ils prennent l'esprit du lieu.
Oui,
pour qu'ils se détendent. La température.
Maintenant, c'est l'hygrométrie, là, vous savez.
Ah, ok, voilà. D'accord. Non, exactement. Je voulais mettre pied de vous, mais j'ai été vil quand même.
Non, il y a une réponse.
Ensuite, vous pourrez apprendre à poser du carrelage mural dans la salle de bain sans colle, Bernard. Ça, c'est pour vous. Avec le nouveau système Crystal Grip, je vous en ai déjà parlé.
Exact. C'est votre rouleau adhésif double saf.
Exactement. En fait, c'est pour vous expliquer, c'est un rouleau, une sorte de velcro que vous allez coller au mur. Il y a la même chose au dos du carrelage. Et après, paf, on se scratch comme ça le carrelage. C'est un produit qui rend ce bricolage super simple. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le poser directement sur votre ancien carrelage.
Ça, c'est pas mal. Hein. Alors, le gros œuvre, ok, on va assurer. Côté déco, il y a des choses quand même.
Oui, bien sûr, il y aura des ateliers d'ail pour fabriquer une étagère en laiton.
D'ail, c'est quoi, do it yourself.
Mais vous le savez, Thierry.
Mais non, écoutez, d'ail, ce truc-là.
Vous allez fabriquer vous-même une étagère en laiton, un potager suspendu, un soliflore mural, mais vous apprendrez aussi toutes les techniques dont vous avez besoin pour refaire votre maison. Tiens, par exemple, peindre une pièce au rouleau, qui connaît vraiment la méthode ?
Je ne sais pas.
On trempe bien tous les côtés du rouleau dans la peinture, puis après on essore le rouleau sur les stries du bac. Et ensuite, par quoi on commence ?
Le haut,
mais on ne part pas dans tous les sens. On peint seulement 1 mètre carré en faisant une bande verticale de 1 mètre de long, puis une deuxième à côté qui doit chevaucher la première. On fait comme ça un carré ou un grand rectangle d'un mètre carré seulement.
C'est un essai ?
Pas du tout. Et ensuite, on fait l'autre partie à côté, etc. Comme ça, tout le mur.
Ça se chevauche.
C'est comme ça.
C'est comme ça qu'on fait. C'est la vraie méthode.
Ça s'explique pas, mais c'est comme ça.
Bah, ça s'explique très bien. C'est parce que sinon, ça va sécher d'un côté, vous n'allez pas y arriver, enfin, etc. Non, c'est très bien.
Là, moi, je veux faire avec vous, Laetitia. Je ne veux pas aller chez le roi Merlin.
Venez avec moi.
Supposons qu'on veuille participer à ces cours de construction de la maison.
Donc, qui auront lieu sur la foire de Paris, eh bien, il faut s'inscrire sur le site 12jours1maison.fr ou tout simplement sur place en arrivant sur la foire. Les cours seront gratuits, il y en aura 200 au total. Alors, profitez-en.
Moi, j'ai très envie d'y aller.
Profitons-en.
J'ai m'acheté une maison à retaper complètement.
Vous nous avez apporté de votre Morvan profond une plante qui a des feuilles de muguet et de jolies fleurettes blanches. Il s'agit, si je suis bien renseigné, de l'ail des ours.
Oui Bernard, ail des ours ou Allium ursinum. Cet ail sauvage pousse dans les sous-bois frais de France. Il est abondant au pied de Mont-Morvan, dans l'Auxois et le Châtillonnais, et puis tout près de Paris, dans l'Essonne notamment.
Et alors votre ail des ours, il peut remplacer l'ail qu'on connaît tous ?
Bien sûr, c'est un condiment subtil remis à l'honneur aujourd'hui. Les feuilles hachées sont délicieuses, n'est-ce pas Sébastien ?
Absolument, je confirme. Huile d'ail des ours sur une tranche de gigot rôti, Laetitia.
Et est-ce que c'est plus digeste ?
Vous tapez la tête contre les murs.
Mais on peut le planter dans son jardin ?
Oui, non seulement on le peut, mais on le doit. Car il est aussi bon que joli en fleurs en avril et juin.
Et en pot sur mon balcon, je peux
la
aussi.
Venir, c'est
tout à fait jouable. Je sais que,
balcon,
que vous, rêvez, vous rêvez d'un potager urbain. Et surtout votre jeune fils aussi.
Ah, mais
alors,
en rêve.
Mon ail des ours est le candidat idéal.
Ah oui.
Il a bon caractère. Il pousse aussi bien en terre qu'en pot. Mmh. On ne lui connaît ni ennemi ni maladie. Donc top pour une culture bio.
Parfait.
Et le petit pot que j'ai emporté est pour vous et votre fils.
Ah, il est ravi,
ça, mignon.
Elle est adorable. Et l'exposition.
Elle va mettre ça où ouais.
Dans la nature, il pousse sous les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver. Ainsi, il y a de la lumière quand son feuillage frétille dès février, et de l'ombre quand il végète en été. Ça couvre parfois des surfaces formidables.
C'est
alors,
vrai, ouais, ouais.
Cultivez en pot sur votre balcon. Il ne fera pas son difficile. Mm-hmm. Il s'accommodera de tout, ombre comme soleil.
Est-ce qu'il va grossir sur le balcon d'Églantine?
Bien sûr, et dans les potagers de nos auditeurs aussi.
Les
bulbes d'abord se multiplient dans le sol chaque année. Et en plus, les fleurs donnent des graines fertiles. Mais attention, ces graines sont... paresseuse. Mmh. Elle ne germe qu'après avoir dormi parfois 3 ans dans la terre.
Oui, voilà. Une fois qu'on a été patient, après ça bombarde. Hein,
et oui, et patience rime avec récompense, Sébastien.
Ah,
quand vous aurez plein d'ail des ours dans votre jardin, et donc une ribambelle de fleurs au printemps, vous pourrez savourer le nana du nana des Zakouski, un pain grillé avec des fleurs d'ail des ours et du beurre au sel de Guérande.
Alors là, recette grandiose. Ah bah oui,
direct.
Pourquoi pas. Fleurs d'ail des ours, c'est bon, mais vous n'imaginez même pas.
Mais non, j'en ai jamais mangé.
C'est une puissance. Jamais. Incroyable.
Alors, on vous croit sur parole, hein, Thierry, mais pourquoi l'appelle-t-on l'ail des ours?
Ça doit être
un rapport avec la bestiole,
non? C'est les ours qu'ils mangent.
Parce que les ours, dit-on, après leur hibernation, se précipiteraient sur ces feuilles riches en goût, histoire de se purger le bidon. Une plante détox. Alors, cet ail sauvage est une des petites merveilles gourmandes que j'ai trouvées chez la pépinière Hortiflore Bureau, près d'Angers, dont je vous ai déjà souvent parlé.
Hortiflore
Bureau. Mais ça, le goût de l'ail qu'on connaît,
c'est plus frais.
C'est encore
c'est
plus frais,
léger.
Plus puissant,
et moi qui n'aime pas trop l'ail, ok.
Donc c'est meilleur pour la laine.
C'est délicieux.
Alors bien sûr, cette pépinière a un site internet et puis vous mettez tout ce que vous voulez sur le site RTL.fr. Thierry Denis sans faute. Mes amis, je vous souhaite un bon samedi.
Bon,
à demain.
Merci.